Allez, courage, c'est parti.
Tu fais comment tout à l'heure?
Des oreilles avec des trous
dedans.
Des fusils molles pour fouler tout.
Vous écoutez Radio Libertaire et Radio Bazar Naum. Voilà, parce que en fait, nous faisons cette émission à 17h tous les mardis sur Radio Libertaire, mais également elle est rediffusée sur Radio. Attendez, il y a un technicien complètement fou là dans la cabine.
Ah merde,
qui
attends.
Fait n'importe quoi. Attends, je vais
t'aider. Ah oui, pardon. Voilà. Je me suis trompé de,
oui,
de bouton.
Alors donc, tu disais à 17h le mardi sur Radio Libertaire et aussi sur Radio Bazar Naum.
Le mercredi et le dimanche.
Le mercredi et le dimanche.
À 21h.
Voilà. Voilà. Donc, c'est la rentrée, je crois. Hein,
c'est ça.
Mais bon, j'en suis pas trop bien sûr, mais.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas qui a vraiment commencé à travailler. Il y en a qui commencent plus tôt que d'autres. Il y en a
qui s'est arrêté, qui ne travaille pas du tout.
Il y en a qui travaillent jamais, d'autres qui travaillent tout le temps. Enfin, c'est compliqué, quoi.
Voilà.
En tout cas, pour les enfants, c'est la rentrée, quoi.
Voilà. Et alors nous, pour cette rentrée, bien sûr, on a pris plein de bonnes résolutions et tout et tout.
Ouais.
Et on commence par une émission thématique. Est-ce que on le dit ou on découvre? Moi, j'ai un truc pour commencer pas mal. Hein.
Ouais,
mais je pense qu'il faut. Moi, je préfère donner le thème tout de suite.
Ouais.
Donc, il s'agit de la vitesse. C'est notre thème
de ce soir.
De ce soir. Mmh. Et j'ai un morceau, je pense, pour commencer qui est pas mal. D'ailleurs, je vais couper le générique parce que. Il commence à nous péter les oreilles. Et donc j'ai un morceau pour commencer qui est très bien parce que c'est très didactique.
Il nous brouille l'écoute avec sa panne de micro.
Mais la canicule m'emballe.
Ah. Donc tu disais, Dédé.
Non, je réfléchis à vos contre-pés, mais j'ai le cerveau un peu lent là. Donc j'ai un morceau pour introduire le sujet de la vitesse qui est absolument parfait parce que c'est un morceau didactique. En fait, c'est un morceau dans lequel je pense on explique bien les bases théoriques du sujet. Mmh. Et donc c'est intéressant. Donc la vitesse, ça se compte en tout cas pour le tempo, ça se compte en BPM.
Hein, ouais, donc.
Et beat per minute. Mmh. Et donc je vous passe un morceau d'un chanteur. Et musicologue aussi, donc il s'appelle Johnny Violent, qui est à la tête d'un groupe qui s'appelle Ultra Violence. Et vous allez voir, on entend bien tous les tempos possibles, toutes les vitesses, du plus lent au plus rapide. C'est vraiment très intéressant et on écoute ça.
250 BPM in your fucking face! BPMs in your fucking face!
absolument génial. Comment t'as dégoté un truc comme un truc pareil?
Bah en fait.
C'est magnifique.
Bah en fait j'ai cherché, enfin bêtement, hein, ah, n'importe qui peut le faire. Hein. J'ai cherché juste le morceau le plus rapide du monde sur internet.
Ouais.
Et puis je suis tombé sur un forum où il y avait des gens qui parlaient des morceaux les plus rapides du monde et il y avait quelqu'un qui citait ce morceau-là.
Ouais, surtout la dernière, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est vrai qu'il est très rapide.
Ça faisait combien? 5 millions de BPM, BPM, je sais plus.
Ouais. Ultra Violence, c'est ça?
Ouais, en fait, alors attends, je vais vous dire exactement, parce que c'est Johnny Violent qui a fait ça. Alors ça, en fait, c'est pas avec le groupe Ultra Violence, c'est lui sous son nom. Et c'est un disque voilà, qui s'appelle Shocker. Voilà, un disque nul, mais voilà. Mais qui est intéressant pour notre thématique.
Ouais. Bah, puisqu'on est là-dedans, je veux bien enchaîner.
Je t'en prie.
Dans la série des groupes violents qui jouent vite, il y a pas mal de références qui sont incontournables. Alors, on peut commencer. On va écouter le morceau le plus rapide de Slayer, qui est quand même un des grands groupes de thrash metal qui marche terrible et qui joue. Dans tous les plus grands festivals du monde depuis je sais pas combien d'années, ils n'arrêtent jamais. Ce genre de groupe qui s'arrête jamais, un peu, c'est n'importe quoi. Ils viennent de perdre d'ailleurs leur guitariste Jeff Hanneman qui est mort il y a quelques temps là. Alors au début, bon, enfin c'est toute une histoire, c'est marrant parce que dans ces groupes-là, il y a toujours une sorte de folklore comme ça qui fait qu'il faut qu'il meure. Quand il meurt, il faut quand même qu'il meure d'un truc spécial, quoi. Ouais. Donc, le mec est tout simplement mort d'une cirrhose, mais en fait, on explique qu'il est mort de la piqûre d'une araignée qui lui a mangé le visage.
Ah, c'était lui, le coup de l'araignée.
Ouais. Un peu une espèce de maladie qui a provoqué de la nécrose de son visage.
Enfin, ouais, faut que ça soit un peu gore, quoi.
Ouais, c'est important, quoi. Bon, bref, dans Rain in Blood, qui est leur album de référence, il y a un morceau qui s'appelle Nécrophobie, qui est bien rapide. Avec le grand Dave Lombardo à la batterie, qui a fait une carrière... jusqu'à jouer avec John Zorn et aussi dans Fantomas, le groupe de Mike Patton. Donc c'est un mec qui a fait plein de trucs, qui est un super batteur, qui a vraiment un son de merde, mais sauf quand il joue avec les autres, enfin en tout cas dans Slayer, il a vraiment un son pourri. Je les ai vus en concert, c'était épouvantable. Mais c'est un groupe qui est quand même marrant à voir, quoi, où il y a deux guitaristes solistes qui doivent jouer tous exactement la même durée de solo pendant les concerts, parce que sans ça, il y en a un qui n'est pas content, ouais, parce qu'il n'a pas joué assez. Donc tous les solos sont millimétrés, ouais. Et puis ils se voient pas, ils arrivent, enfin ils peuvent pas se blairer, ouais. Donc ils arrivent d'un génial côté et de l'autre de la scène, ils font leur concert puis ils se rebarrent. Enfin.
Et est-ce qu'ils jouent tous les deux aussi vite l'un que l'autre?
Ouais. Je pense. Enfin, je sais pas qui est le plus rapide. Okay. Mais... Bon. Voilà, Slayer, Nécrophobie. Voilà, avec les deux solos bien à droite gauche, mm-hmm, là, chacun son tour, c'est super.
400 BPM à peu près.
Ah, 400?
Ouais.
Je crois que c'était 227.
Non, parce que je tapais la blanche sur mon métronome.
Ah, si tu prends la ça fait 400, ouais.
Voilà, moi j'ai tapé ça.
Oui, oui.
Ça fait 200 et en fait, ça c'était la blanche, donc ça fait 400 à la noire, 400 BPM.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal.
Ouais, ouais.
Bon, bah alors on va continuer avec un morceau un tout petit peu plus lent qui s'appelle Snap.
D'accord.
Voilà,
on vient d'écouter. De nous.
Non, pourquoi? Pas du tout. Pourquoi?
Bah, c'était pas rapide.
C'est combien,
c'était quand même assez rapide.
À même pas 140 à la noire.
Ouais, quand même, ça tricote, hein.
Non, mais moi, je sais, j'ai deviné ton stratagème.
Ouais, il n'y a pas de...
Parce qu'il y a un musicien qui s'appelle Chris Speed.
Ouais, voilà.
C'est ça, non?
Ouais, c'est ça.
Putain, c'est dingue, ça. Ouais,
j'ai ramené que des morceaux de Chris Speed aujourd'hui.
Bah, c'est super.
Ouais, c'est vachement bien.
C'est vraiment magnifique.
Ouais.
Ça se traîne un peu, mais c'est...
Ouais, mais du coup, ça fait respirer. Putain, ouais, j'ai un casque qui marche.
Je vais t'expliquer comment il marche tout à l'heure.
Alors, attends, tu peux pas le tripoter encore un peu?
Alors, tu vois, il y a une fiche, là, rouge. Et en fait, il y a un faux contact dans la fiche. Donc, si tu la tripotes un peu, ça va revenir.
Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le retirer.
Alors...
On vient d'écouter donc Pachora, qui est un groupe que vous savez j'aime beaucoup, que je ramène de temps en temps depuis toutes ces années qu'on fait cette émission. Là, c'était leur quatrième album, et donc c'était un groupe co-leadé, on va dire, par le saxophoniste et clarinettiste Chris Speed, qu'on écoute aussi très souvent dans cette émission. Et le bien nommé Chris Speed.
Ouais. Alors, juste pour, ça n'a rien à voir avec notre thème, mais quand même, Chris Speed, c'est marrant parce que à la clarinette, il a un son mais très 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 droit. Hein. Il y a pas, ça vibre pas du tout. Hein. C'est...
Mais au saxophone aussi, non?
Ouais, et au saxophone non plus. Enfin, peut-être plus au saxophone.
Au saxophone, il y a les deux. Parfois, il est assez expressif, mais il a aussi quand même une de ses palettes qui est d'un espèce de jeu super linéaire, sans vibrato.
Ouais, j'adore ça, je trouve ça magnifique. Ouais.
Et c'est marrant parce que, alors, c'est curieux parce que moi, je trouve que curieusement, c'est pas inexpressif, enfin ça donne pas une sensation d'un truc raide. Mais par contre, ce qui est assez marrant, c'est qu'une fois je l'ai fait écouter à un musicien classique.
Ah oui.
Et qui m'a dit en fait, je sais pas vraiment écouter, mais j'ai écouté ça et puis il me dit mais c'est quoi ce clarinettiste, c'est complètement inexpressif, c'est on dirait une machine, c'est vraiment horrible.
Ouais, c'est drôle. Ouais,
c'est marrant, hein.
Ouais.
Mais moi, ça me fait pas cet effet-là, je trouve. C'est vrai que c'est complètement droit, hein, mais.
Ouais, mais comme ça, c'est vraiment super au service des compositions, des mélodies. Ça a pas besoin de rien d'autre. Et je trouve ça aussi super beau et. Ouais. Et au contraire,
Je trouvais pas qu'il y a une, surtout au sax, qu'il y a une justesse très étrange. Moi, j'ai toujours trouvé.
Il a tendance à jouer bas.
Et je trouve ça toujours vachement. J'adore, j'arrive pas.
C'est une question de timbre, je crois, en fait. Enfin, peut-être qu'il joue un peu bas aussi, mais c'est très très léger.
Ouais, il a toujours cette. Ouais. En fait, le fait d'avoir un son sans vibrato aucun, ça fait aussi que du coup, t'entends très bien la justesse. Tu peux pas noyer le poisson ou être un petit peu.
Mais d'ailleurs, il est très 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 juste. Hein, rien à dire, mais c'est vrai que c'est un côté, c'est comme il y a des gens, on peut être juste et puis avoir un son un peu haut ou un peu bas, enfin c'est assez mystérieux,
donc on en réécoutera tout à l'heure au sax aussi.
Donc t'as fait une super thématique interne, en fait.
Resserré le, parce que c'était trop facile, juste la vitesse.
Je croyais que c'était une émission sur Chris Speed, j'avais pas compris. On parle souvent en anglais, vous m'avez dit we're gonna make a broadcast about speed.
Ouais.
J'ai dit ouais, ok. Yeah, man.
Alors, c'est à moi là, hein, de continuer. Donc, j'ai un morceau. Là, tout à l'heure, tu nous as fait écouter Necrophobic, donc de Slayer, c'est ça? C'était à 400 BPM.
Ouais.
Alors, moi, j'ai cherché, donc comme chacun sait, je suis un fin connaisseur du jazz. dans le jazz, évidemment, la vitesse quand même, surtout avec le bebop, c'est devenu un peu presque un truc en soi, en fait, la recherche de la vitesse, enfin... Et donc j'ai cherché, j'ai pas trop cherché, je suis tombé en fait par hasard sur un morceau mais à une vitesse hallucinante, et après du coup je me suis demandé vraiment quels étaient les morceaux les plus rapides, enfin, donc j'ai réécouté plein de trucs, évidemment Charlie Parker, Les Cocos, Cherokee.
Shoner, c'est Charlie Parker, c'est un morceau de Charlie Parker ou pas?
Je crois.
Parce que j'ai trouvé Freddie Hubbard, mais je sais pas si c'est un morceau de Freddie Hubbard ou pas.
Eh ben, écoute, je sais pas.
Ouais, d'accord.
Je crois pas. Hein,
je devrais savoir, mais.
Ouais.
Et donc, tout ça, en fait, ça tourne. Enfin, moi, les gros, gros, gros tempos de cette époque-là que j'ai trouvé, ça culmine à 360, machin. 360 à la noire, quoi. Et là, donc, ce truc sur lequel j'ai été tombé, enfin, que j'ai écouté et que je vais vous faire écouter, là, c'est à 400 à la noire.
Non.
Wow.
Et alors, donc, il faut quand même bien se rendre compte, enfin, de toute façon, vous allez l'entendre, mais 400 à la noire, c'est quand même ébouriffant parce que le soliste, là, donc, il phrase en croche là-dessus. Donc, ce qui équivaut à des doubles croches à 200, par exemple. Et alors après, j'ai pensé à la musique classique. En musique classique, par exemple, un presto, un prestissimo, ouais. c'est dans les 140 ou 160 à la noire. Et souvent, ça ne phrase pas en double croche dedans. Donc, bref, c'est complètement hallucinant. Alors, c'est sûr qu'il en existe d'autres, hein, évidemment. Parce que, bon, voilà. Enfin, là, je suis quand même tombé quasiment. Ça tombait tout cuit. J'écoutais un disque et paf, je tombe là-dessus. Donc, c'est le trompettiste Don Ellis, dont je ne sais pas si vous le connaissez, mais ouais, on peut en parler. C'est un personnage intéressant. Donc, ça s'appelle, ce morceau, ça s'appelle Lover. C'est avec. Alors, vous allez voir, il y a du beau monde. C'est un disque de, je crois, 62, c'est ça. Avec Gary Peacock, Paul Blais. Et au drums, alors c'est soit Gene Stone, soit Nick Martinis, mais de toute façon je connais aucun des deux. Voilà. Lover, Don Ellis, 400 à la noire.
Incroyable.
Ouais.
Putain, la vache.
Ça, là, ouais, là, ça fonce un peu pour tout le monde là, hein, dans, dans ouais. la tête là. Alors après, je sais pas. Oui, comme je disais, il y a sûrement d'autres.
Donnelly's, tu peux lui dire un peu.
Enfin, qui sait.
Oui, alors je peux pas dire énormément de choses parce que j'ai pas vraiment de notes, mais enfin si, bon, quand même, c'est un trompettiste. Bon, ça, c'est un de ses premiers disques, donc il a dû démarrer vers la toute fin des années 50. Et en fait, c'est un personnage assez curieux qui a surtout monté des big bands et qui s'est beaucoup intéressé, enfin, au rythme en fait, beaucoup. Donc, par exemple, il y a son premier album, ça s'appelle How Time Passes. Donc, c'est que des morceaux avec des histoires de tempo qui accélèrent, des compositions rythmiques un peu cheloues. Et après, il a formé un big band et il a fait des tas de trucs inspirés par les métriques impaires, des trucs indiens ou des Balkans. Enfin vraiment, ouais. Il s'est beaucoup inspiré de musique extra-européenne. Avec des rythmiques intéressantes. Et il a fait des... Enfin, bon, j'en ai écouté beaucoup parce que ça m'intriguait, parce que c'est un musicien dont, en fait, j'ai un peu une figure un peu oubliée, enfin, pas très connue de l'histoire du jazz, mais qui est souvent cité comme un personnage un peu original et un novateur. Mm. Du coup, j'en ai écouté beaucoup et il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas énormément. Mais il y a des choses assez marrantes, voire même très kitsch des fois. Enfin, dans les années 70, il a fait des trucs. Enfin, il y a un disque qui s'appelle Turkish Bath, qui est vraiment chouette, avec toutes les sonorités des années 70, les claviers et tout ça. Et puis des trucs très kitsch, turquisants ou indianisants. C'est assez chouette. Et voilà, mais c'est un type qui n'a jamais eu une très grande notoriété, mais qui a toujours été un peu... cité par les musiciens comme un type intéressant. Voilà, ce genre de figure. Sinon, c'est un mec qui a beaucoup voyagé, qui était hyper... Enfin, il était très politisé aussi, tendance. Je crois qu'il était communiste. Enfin, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il était très, très politisé, très à gauche. Et voilà, enfin... Voilà. Pour l'anecdote.
Ça donne envie quand même.
Ouais, donc il y a des trucs marrants, ça c'est quand même... Et alors, 400 à la noire, je pense que... Je sais pas, il doit y en avoir d'autres, mais je me demande si c'est même juste possible, même...
Bah là, dans ce style-là, en tout cas, on commence à dire que c'est à la limite du possible, quand même. Ouais. Parce que la batterie, on l'entend bizarrement. C'est assez étrange, ouais.
Ah bah oui, faire un shabada sur la cymbale à 400, en fait, je sais pas comment il se débrouille. Enfin, il y a forcément une sorte d'entourloupe, mais...
Ouais.
Le rebond, je sais pas, on sent comment. Mais...
Bon, alors moi j'ai une petite thématique qui te tend à pousser le bouchon encore un peu plus loin. C'est-à-dire que justement, pour enchaîner, ça marche assez bien parce que passer une certaine vélocité, ça marche plus quoi. Je veux dire, on a beau être une brute. Ça passe plus. Et donc, il y a pas mal de mecs qui se sont intéressés, qui ont envie d'écrire des choses injouables, notamment, pas seulement pour l'aspect rapidité, mais aussi pour d'autres aspects ergonomiques, et puis qui, du coup, ont fait de la musique pour des machines, quoi.
Ouais.
Donc ça, du coup, ça libère évidemment énormément les possibilités. Et un des premiers, c'est Nan Caro, qui a fait des espèces de boogies complètement hallucinants sur des pianos mécaniques. Il a aussi fait beaucoup d'études très très sophistiquées, mais il a toujours gardé ce goût du boogie woogie complètement dingue. Et donc voilà, ça c'était dans les années 50. C'est une, on va écouter une de ses études pour piano mécanique, c'est la 3E. Il en a fait plein. Ça tient, enfin sa discographie, elle tient sur 3-4 disques, je crois, 3-4 CD, mais il y a énormément d'études, c'est en général des pièces assez courtes. Et c'est souvent très 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 speed. Et celle-là, en l'occurrence, ce boogie, il est assez bien là-dedans. Thank you. Pardon, je pense pas qu'on l'ait déjà écouté celle-ci, mais elle est vraiment super.
Ah oui,
c'est bien, bien barré. C'est
vraiment, ouais.
Ouais.
Ouais, qui a un côté assez magique de ces instruments. C'est une machine, mais avec un instrument purement mécanique et acoustique.
Ouais.
C'est assez génial, quoi.
Ouais, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai entendu une émission, une interview de Conlon Nancarrow il y a pas longtemps. Enfin, j'ai écouté une archive, quoi. Et il expliquait. Donc, l'intervieweur lui demandait s'il ne s'était pas intéressé aux moyens, aux bandes magnétiques, aux moyens de l'époque, mais puis, puis les ordinateurs, parce que je pense que. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'il est mort, mais il y a peut-être eu des premiers. Non, peut-être pas d'ordinateur encore.
Peut-être, je sais plus.
Enfin, bon, en tout cas, il y avait des moyens technologiques autres que de perforer des rouleaux.
Ouais.
Et il disait qu'il avait essayé, puis que ça ne l'intéressait pas, que finalement, c'était le moyen le plus pratique pour lui. C'était vraiment les rouleaux perforés.
Ouais.
Que ce qu'il entendait dans les musiques électroniques et magnétiques, ça ne l'intéressait jamais. Voilà. C'est marrant. Et il expliquait, et vraiment, il disait que c'est vraiment un type qui c'est une obsession chez lui, c'est son seul centre d'intérêt, c'est les rythmes, les différentes vitesses.
Ouais, ouais.
C'est, enfin, vraiment, il en revient toujours à ça quand il parle. Il
ouais.
dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps, les superposer des couches de temps et tout.
Mais il a écrit d'autres trucs, hein, quand même.
Ouais.
Hein.
Ouais.
J'ai trouvé des quatuors à cordes,
ah,
j'ai
oui,
trouvé des trucs.
J'ai trouvé ça aussi. Genre. Ouais. Ouais, ouais.
J'ai pas écouté encore.
Mais. Ouais, ouais.
Et c'est marrant parce qu'il habitait au Mexique et il n'avait pas le droit, il n'avait jamais eu le droit de retourner aux États-Unis après avoir combattu. En fait, il est parti avec des mecs d'extrême gauche américains pendant la guerre d'Espagne. Et donc il s'est battu aux côtés des républicains et puis il n'a jamais pu rentrer aux États-Unis après.
Ah,
quand il est rentré, les Amerlocs lui ont dit les communistes, ils dégagent, quoi.
Ah oui, c'est pour ça, oui. Donc et finalement il a pris la nationalité
mexicaine
et ouais. Il est devenu mexicain d'adoption. Mmh. Ouais. Mmh.
Alors Dédé, tu nous fais écouter Chris
Speed. Un autre morceau avec Chris Speed dedans.
Thank you.
Voilà, donc ça c'est extrait d'un autre groupe de Crispid, son trio intitulé Ifi Trio. Ou Ifi, je sais pas comment. Ifi.
Ouais, c'est bizarre.
Sur Paris avec l'anglais, on sait jamais trop quoi. Ouais. Alors c'est un trio donc avec Ben Perovski à la batterie et Jamie Saft au clavier.
Ah oui. C'est chouette.
Ouais.
Ouais. Ouais, super. Et quand même le début était assez rapide. Ouais.
Alors par contre après ça m'a donné une idée. C'est marrant que personne. C'est marrant. Si j'avais pensé je l'aurais fait quand même. J'aurais bien amené un morceau super lent, assez connu par exemple, et le passer. L'accélérer à mort et vous le passez comme ça sans rien dire, ça aurait été une bonne idée.
Ça aurait été pas mal.
C'était marrant, ça. Ouais. C'est con. J'ai vraiment, merde. J'y ai pensé en écoutant ton morceau. Je me suis dit, c'est tellement lent, là, ce serait marrant si on l'accélérait. alors, c'est... Ah, on a encore pas mal de temps. Y a un morceau, je sais pas si tu veux. On a un morceau tous les deux, pareil.
Ouais.
Bon, tu dois te douter lequel.
Ouais.
Tu veux le passer? Je passe un autre truc et puis parce que faut, c'est un peu.
Ouais. Alors je sais pas. Est-ce que c'est une version pour orgue de Barbarie que tu as ou c'est
non, c'est la version originale.
Originale pour piano.
Ouais. D'accord. Non, pour clavecin.
Pour clavecin, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Pardon.
Bon, je passe un autre truc et puis on.
Ok, ok, passe autre chose.
Je passe un petit truc.
Attends, là, c'est mystérieux
c'est
là.
Blague, ouais, c'est hyper.
C'est pas une blague, mais bon.
Non, non.
C'est juste, on a amené tous les deux Continuum de Ligeti, on l'écoutera tout à l'heure. Alors.
Et pourquoi pas maintenant? Parce que vous en avez parlé là.
Ah, parce que c'est à ton tour et tu veux pas
passer autre chose. Je sais pas si t'as beaucoup de trucs à passer. Ouais. Bon, on fait une petite pause avec un petit morceau court d'Hermeto Pascoal. Voilà. Avec, vous allez voir, ça tricote pas mal à la fin. Hermeto Pascoal sur un de ses premiers disques, Cerebro Magnetico.
C'est joué avec des vraies mains, tu crois?
C'est un disque qu'il a fait tout seul, avec évidemment Dieu heureux, et puis sans doute peut-être là quand même la batterie ça fait accélérer quoi.
Ouais.
Le piano, c'est bien possible qu'il l'ait fait.
Ouais. C'est marrant parce qu'en écoutant ça, je me rends compte qu'il y a, enfin, parfois il y a un truc de son quand même dans Hermeto qui est un peu dur à encaisser quoi.
Ça c'est sûr.
Ouais.
Ouais, ça fait toujours ça, enfin souvent ça.
Ouais,
en
vrai.
Même temps voilà c'est.
Ça dépend des disques mais c'est vrai que sous. Ouais, il y a.
Et puis je sais pas peut-être ce sentiment qu'ils s'en foutent un peu que vraiment c'est pas une musique qui c'est pas très important qu'il y ait des beaux timbres, un beau son de piano, un beau son de batterie machin.
Des fois quand même je trouve que c'est dommage parce qu'il y a un disque qu'il a fait tout seul dans les années 90 qui est magnifique qui s'appelle EU. Oh merde. Les noms en brésilien, je suis désolé, j'y arrive pas. Enfin, c'est une pochette blanche où sur un fond blanc, on le voit entouré de plein d'instruments.
C'est Fiesta de Deus.
Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est aussi sur fond blanc, mais là, on le voit tout seul au milieu de plein d'instruments de musique.
Ouais.
En fait, il a fait le disque tout seul. Et dans ce disque-là, il joue beaucoup de piano acoustique, et presque que des instruments acoustiques, et notamment du piano. C'est un pianiste absolument incroyable. Ouais. Et le piano, mais c'est la prise de son, là, mais la plus pourri que j'ai jamais entendu, mais c'est dégueulasse.
Ouais.
Et pourtant, il y a des photos, c'est un piano à queue dans un super studio.
Ouais.
Mais c'est dégueulasse. Je sais pas comment ils ont fait la prise de son, c'est horrible. Et bon, et ça reste, ouais, cool, et ça reste de la musique. C'est un de ses disques, un de ses plus beaux disques, quoi. Voilà, enfin, c'est marrant.
Bon, ben, puisqu'on en a parlé, on va écouter Continuum. Donc, c'est le premier morceau de Musica Ricercata, je ne me souviens plus. Ou c'est à l'extérieur?
Non, c'est pas dans Musica Ricercata. Non.
Il est un peu.
C'est beaucoup plus tard, parce que Musica Ricercata, c'est 56, je crois. Enfin, c'était juste avant qu'il quitte la Hongrie.
D'accord. Bon, enfin, toi, tu connais plus de choses que moi sur les Getty, ça c'est sûr, mais d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. Mais Continuum, c'est. Donc, il y a une version pour clavecin, la première pour clavecin.
Ouais.
Ensuite, il y a une version pour piano. Et puis, il y a un mec qui s'appelle Pierre Charial qui fabrique des orgues de barbarie depuis très très longtemps, qui est assez connu maintenant pour ça, qui a fait. Qui a participé notamment à un disque de Ligeti qui s'appelle Musique Mécanique. Et donc, il a adapté pour l'orgue de barbarie le Continuum. À l'origine composée pour clavecin. Voilà.
Donc c'est cette version que tu
C'est cette version que j'ai amenée, ouais.
D'accord.
Voilà. Donc ça date de 1970, le Continuum. Voilà. Gheorghe Ligeti. Voilà, donc c'est un prestissimo.
Ça donne envie d'écouter la version pour clavecin.
Ouais, carrément. Hein, ouais. Tu veux pas nous en mettre un bout ?
Alors ouais, on peut. Alors peut-être avant, il y a peut-être 2-3 trucs à dire quand même rapidement.
Ouais.
C'est en fait c'est prestissimo, mais je crois que sur la partition c'est marqué le plus vite possible. Et en gros, l'idée... En fait, j'ai lu un bouquin que je recommande si c'est pour ceux qui s'intéressent à Ligeti. Ça s'appelle L'atelier du compositeur. C'est des écrits de Ligeti, donc sur ses œuvres et aussi des conférences qu'il a faites sur sa musique, et où il explique en fait toute sa démarche de compositeur, et parfois en rentrant dans, enfin, d'une façon assez conceptuelle, mais aussi en rentrant un peu dans les détails des techniques d'écriture et comment il a imaginé des choses et comment il a cherché des moyens pour les noter et pour les rendre intéressantes sur le plan sonore, quoi, que ça soit pas uniquement des concepts. Et donc sur cette pièce là il dit que le principe, c'est tout bête, c'est que en fait si tu joues des notes le plus vite possible, si t'alternes deux notes très très vite, en fait il y a un moment où l'oreille distingue plus vraiment les deux sons,
ouais.
où ça fait comme quelque chose de vertical alors que c'est successif. Et qu'en jouant avec les doigts du clavecin, enfin, en faisant des petits groupes de 3 notes ou 4 notes, même si c'est toujours à la même vitesse, mais du coup, ça fait on entend une vitesse différente. Parce que
c'est
au départ, l'idée est toute bête, mais c'est ça qui l'intéressait. Après, dans la réalisation, c'est plus compliqué, mais. Donc, c'est pour ça qu'il demandait de jouer le plus vite possible. Et alors, donc, évidemment, par un claveciniste, ça ne va pas aussi vite que dans la version pour orgue mécanique. Voilà.
Thank you.
C'est sûr que le clavecin, ça s'y prête quand même. C'est quand même extraordinaire parce que le fait qu'il n'y ait pas de dynamique et que. Ouais, que ouais. Il y a vraiment. L'impression de Halo, elle est vachement plus forte qu'avec l'orgue de Barbarie, je trouve.
Ouais, ouais. Oui, curieusement, je trouve qu'on. Enfin, moi, je trouve que c'est plus convaincant. C'est peut-être le fait de l'avoir écouté après, donc du coup, on écoute peut-être mieux.
Moi, j'ai bien aimé la première.
Vraiment que c'est vrai que. Ouais. Mais enfin en tout cas ce qui est marrant c'est qu'il a et c'est ça qui est génial toujours avec Ligeti, c'est que il a souvent il part de enfin c'est très conceptuel hein, sa musique c'est il part vraiment de concepts très généraux et mais toujours il recherche un il explique bien ça il recherche toujours un moyen que d'abord que ça sonne vraiment que ça soit que ça produise un effet sonore quelque chose d'intéressant. Donc, il cherche des façons d'écrire. Et en plus, que ça puisse être jouable par des instrumentistes. Et là, c'est vrai que c'est. Enfin, on sent bien qu'il a dû. Enfin, que ça tombe bien sous les doigts. Il utilise la conformation de la main et de l'instrument pour pouvoir faire ça. Et de façon à ce qu'un interprète puisse le jouer. Et c'est marrant parce que ça ressemble presque à de la musique électronique, je trouve, à la fin. Fait, c'est juste. Quelqu'un avec un clavecin, avec un instrument du 17e siècle. Quoi. c'est génial.
C'est incroyable.
On va s'envoyer un troisième Chris Speed.
Dans le cornet. Ouais.
Alors avec cette fois-ci Alas No Axis, le groupe de Jim
d'accord.
Black.
Ok. We'll be right back.
Ah, c'est, j'adore ce groupe.
Ouais.
Ouais.
Super, super.
C'est un... Ça commence à faire un bout de temps quand même que ça existe. Enfin,
ouais,
en fait, je me rends compte, je sais plus, j'en parlais avec des copains musiciens et ça un groupe qui a vachement d'influence en fait.
Ouais.
Il y a plein, voilà, c'est un peu, c'est arrivé, ça a débarqué comme ça et maintenant, Last No Axis, c'est un son qu'on retrouve maintenant chez un peu pas mal de gens, plus ou moins directement quoi.
Ouais,
c'est vraiment le truc des... C'est les années 2000, en fait, non? Ils ont commencé,
ça doit correspondre
à peu près.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est fou. Il y a peu de groupes qui ont marqué à tel point...
Ouais.
Enfin,
et donc, Chris Speed aussi, dans tous ses différents projets, c'est aussi un saxophoniste qui a amené un son qu'on n'avait pas trop... Enfin, vraiment une voix de sax et de clarinette vraiment originale. Qui fait aussi des émules et qui est un peu une référence maintenant pour pas mal de gens. Quoi.
Eh ben,
c'est l'heure de se quitter ou pas
quitter, hein. Ouais, on peut même se payer le luxe d'un petit générique pour.
Qu'est-ce qu'on se paye comme luxe
Un petit générique.
Un générique
pour
carrément.
Finir, tu vois. Ouais.
Pas mettre Napalm Death quand même, non.
Ah, Napalm Death. Ah si, ah non, alors moi je réclame Napalm Death.
Ah non.
Napalm Death, Napalm Death.
D'accord.
Quand même.
Alors c'est où, c'est quoi, c'est comment?
Tu sais, c'est ce petit groupe là.
Ouais, mais ça
veut dire la mort du
Rabid Wolves for
c'est ça,
Christ.
C'est ça.
Ok. Death. Allez, à la semaine prochaine.
Ouais, à la semaine prochaine. Take the place. Did I dream of